Apprendre les langues avec podcast, un service de l'école Club Migros. Ce podcast en français s'adresse aux étudiants à partir du niveau A2-B1. Pour toute information supplémentaire, consultez notre site internet www.podclub.ch.
Bonjour, bienvenue sur le podcast La vie de Marie. Nous sommes le 6 novembre et avant de commencer, j'aimerais une dernière fois vous rappeler la mise à disposition de notre application de vocabulaire dont vous ferez bon usage. Aujourd'hui, nous allons parler du corps humain. Tout d'abord, nous allons parler de soins en France. Puis Clara nous raconte comment une partie de son corps est devenue une œuvre d'art. Et pour terminer, une petite réflexion sur la représentation du corps dans la peinture. Voici un chiffre effarant. 33% des Français auraient renoncé à se soigner, faute de moyens. La moyenne européenne est de 18%. 39% des Polonais ne peuvent se soigner car ils n'ont pas l'argent pour cela. Et seulement 4% des Britanniques sont concernés. À croire que s'il s'agit de faire des économies, les Français préfèrent ne plus se soigner et continuer à bien manger. Enfin, tant qu'ils le peuvent. Car quand on n'a pas d'argent, les premiers soins qu'on se refuse sont les soins dentaires. 25% des Français renoncent en priorité à aller chez le dentiste. Tiens donc, vous vous souvenez du livre que l'ex-femme de notre président François Hollande avait écrit ? N'y avait-on pas lu que ce dernier surnommait les pauvres les sans-dents ? C'est un visionnaire cet homme. Et puis quand les Français ne voient plus ce qu'ils mangent, car leur vue baisse, ils sont 12% à ne pas aller s'acheter des lunettes. En fait, ces chiffres concernent bien plus les femmes que les hommes. 41% des Françaises contre seulement 23% des hommes. Mais pourquoi ne va-t-on pas se faire soigner? Il y a le manque d'argent, bien sûr. La crainte de l'erreur médicale ensuite. Et puis surtout, les délais d'attente. Moi, par exemple, j'attends depuis 6 mois un rendez-vous chez mon ophtalmologue. Et là, il vient de me téléphoner pour me dire qu'il sera en vacances. Hallucinant, non? Il y a aussi une autre raison. Comme l'assurance sociale est gratuite en France, les Français ont-ils l'habitude d'aller régulièrement, pour un oui, pour un non, chez le médecin? Les dépenses de santé en France sont donc importantes. Et donc les caisses de l'État se vident. Et les remboursements sont moins élevés. Alors quand il s'agit de soins qui ne sont pas bien remboursés, les Français ne vont-ils plus se faire soigner? D'ailleurs, petite parenthèse. Saviez-vous qu'en Alsace, nous avions encore un régime social local particulier qui vient de l'administration allemande dont l'Alsace était dépendante à partir de 1870. Et quand, en 1918, l'Alsace est redevenue française, ce régime est resté. Et celui-ci est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'il est financièrement en bonne santé, contrairement à la sécurité sociale française. Pour obtenir un meilleur remboursement, il est maintenant devenu obligatoire de prendre une mutuelle. La mutuelle est une sorte d'organisme qui vous rembourse la part que la sécurité sociale ne prend pas en charge. Par exemple, un soin me coûte 100 euros. La sécurité sociale me rembourse 60 euros. Et la mutuelle va alors me rembourser la différence, ou du moins une partie, de cette différence. Plus je paye cher ma mutuelle, meilleur sera mon remboursement. Enfin, plus mon patron payera cher, meilleur sera mon remboursement. Car c'est nouveau aussi, c'est l'employeur qui doit payer la mutuelle à son salarié. Mais soit votre patron, parce qu'il a une petite entreprise, n'a pas les moyens de vous prendre une bonne mutuelle, soit parce que votre patron veut économiser, la mutuelle ne sera pas forcément bonne, c'est-à-dire qu'elle ne vous remboursera pas bien. Alors vous prendrez à votre tour une autre mutuelle pour compenser le remboursement de votre sécurité sociale et celui de la mutuelle de votre patron. Bref, avec tous ces papiers à remplir, avec tous ces organismes qui vivent sur le dos du soi-disant bien-être de la population, je pense que les gens ne vont plus se soigner, car même ça, ça devient compliqué. Clara m'a envoyé une photo de son nouveau bijou. Un bijou indélébile, une marque pour la vie, un tatouage. À l'intérieur de son pied gauche, sous l'os du tibia. Et voici le petit mot qui l'accompagnait. J'avais rencontré une fille qui, comme moi, était en voyage. Pour se donner un souvenir de son aventure, elle s'était offert un piercing sur la langue. Quand je l'ai rencontrée, cela faisait 2 mois qu'elle l'avait, mais sa langue était encore un peu enflée. Elle me racontait que le premier mois, elle ne pouvait rien manger. Le piercing s'était infecté. Tu m'étonnes. En voyage, tu ne peux pas toujours surveiller de près ce que tu manges. Enfin bref, son piercing ne me faisait pas du tout envie. Mais j'avais l'idée, moi aussi, de ramener un souvenir de mon voyage. Un tatouage. Ici, je suis dans les îles, et en Polynésie, et surtout dans les îles des Marquises, le tatouage est très présent dans la culture. Au début du siècle, il y avait encore beaucoup de personnes tatouées. Aujourd'hui, bien sûr, le symbole religieux n'est plus, mais le savoir-faire est resté. Pendant mon tour à vélo à Tahiti-Iti, j'étais un soir dans un camping, à côté duquel il y avait un tatoueur. Le gars était des Marquises. Je suis allée voir son travail, on a discuté, j'ai vérifié la propreté des lieux, de ses aiguilles, j'ai fait des croquis de ce que je voulais. Et puis, je me suis décidée. Il m'a conseillé de le faire le dernier jour de mon séjour sur l'île et d'éviter le soleil, la plage. Cela tombait bien, car les sables blancs, je m'en lasse. C'est fou de dire ça, hein ? Bref, nous avions convenu du jour, du prix et du motif. Je voulais un petit lézard et une tortue. Disons que c'est une forme qui symbolise le mariage entre une tortue et un lézard. La tortue, c'est le symbole de la longévité. Le lézard, celui de la vivacité. J'ai appris que le lézard se dit Moho et la tortue Kea, et que ces 2 motifs du règne animal occupaient des places de choix. Le lézard était autrefois tatoué sur le visage des hommes de haut rang. Moi qui suis pour la lutte des classes, je ramène la haute société à mon pied. Bref, le jour de mon tatouage, et mon dernier jour sur l'île donc, je vais au distributeur de billets pour retirer des billets. Impossible. Une petite pancarte annonçait une grève des transporteurs de fonds. Tous les distributeurs automatiques de l'île étaient vides. La lutte des classes n'allait pas être possible. Je retourne voir mon tatoueur marquisien et lui annonce que notre projet tombait à l'eau. Le type assez jeune m'observe et me lance. « Bon, tu sais quoi ? Je n'ai jamais fait de cadeau à une blanche. Tu seras la première. » Surprise, flattée, mais prudente, je lui demande tout de même. « C'est un cadeau ? Un vrai cadeau ? Tu ne veux rien en échange ?»« Non, rien, m'affirme-t-il. » J'étais tout de même un peu gênée, mais bon, la lutte des classes aura lieu. Quelques heures plus tard, quelques douleurs plus tard, car oui, dis donc, sur le pied, l'aiguille fait tout de même assez mal. Voilà que sur mon pied, une petite tortue s'était mariée à un lézard. « Un petit bisou tout de même ?» me lance le tatoueur. « Ah non, la lutte des classes ne se fera pas par la soumission des femmes. Allez, je ne suis pas pimbèche. Je lui ai fait une bise sur la joue et je me suis sauvée. Dans mes préparations de cours, j'ai été amenée à faire un sujet sur la représentation du corps de la femme dans la peinture. Depuis la Grèce antique, le corps nu est très souvent représenté. Il est beau, idéalisé, les courbes sont douces. La Renaissance continue dans cet esthétisme. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que des peintres comme Courbet refusent l'héritage antique. Les corps sont réalistes, les défauts visibles. Le tableau de Gustave Courbet, La Source, montre une femme de dos, et ses cuisses ne sont plus lisses, mais dévoilent ses défauts, la cellulite. Bref, l'ennemi de toute femme réelle. Nous ne sommes pas toutes des Vénus de Botticelli ou du Titien, et si nous l'avons été à 15 ans, nous ressemblons bien à l'Olympia de Manet ou à la baigneuse de Courbet. Et plus nous vieillissons, plus nous ressemblerons aux demoiselles d'Avignon de la peinture cubiste de Picasso. Bref, avec Courbet, le corps se dévoile, se déshabille de sa perfection pour offrir au spectateur un corps brut, nu, donc scandaleux. L'Olympia de Manet a d'ailleurs été refusée au Salon des Refusés, salon qui accueille les œuvres rejetées par le salon officiel qui s'est tenu pour la première fois à Paris en 1863. Exposé 2 ans plus tard au salon officiel, il fait immédiatement scandale. Et aujourd'hui, des nus, on en voit partout. Les femmes se déshabillent sur les abris d'autobus, sur les bus, les murs des immeubles, pour vendre une voiture, des sous-vêtements. Or, ces nus ne font plus scandale. Peut-être parce qu'ils sont parfaits. Oh, mais ces corps-là ne sont pas plus réels que ne l'étaient ceux des Vénus de l'Antiquité ou de la Renaissance. Car aujourd'hui, il y a Photoshop. Ce logiciel informatique qui affine les silhouettes, efface des nez trop épais, des rougeurs et des rides. Picasso avait raison. Les ordinateurs ne servent à rien. Ils n'apportent que des solutions. Habiller les femmes de perfection pour en faire des objets sexuels sans que cela ne choque personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve, si tout va bien, dans 2 semaines sur www.podclub.ch ou sur notre app. Et nous parlerons de l'automne. Et d'ici là, pour contrôler votre lexique, n'oubliez pas notre fonction vocabulaire. En attendant, couvrez-vous et à bientôt.
Vous trouvez la version écrite de cet épisode sous www.podclub.ch. À propos, dans les écoles club, vous pouvez commencer un cours de langue à tout moment. Consultez notre site internet et n'hésitez pas à vous inscrire. Nos adresses de site internet sont les suivantes: www.clubschule.ch, www.ecoleclub.ch et www.scuolaclub.ch.